Le déclenchement des élections, c'est évidemment la grosse histoire aujourd'hui. On va tout de suite regarder voir les enjeux, ce qui nous attend au cours des prochaines semaines avec Tasha Carradine, qui est directrice chez Navigator, chroniqueuse politique que vous connaissez bien, nationale pour Post Media. Bonjour Tasha.
Bonjour, comment ça va?
Très bien, merci. On avait l'impression pendant un bout de temps que les libéraux filaient seuls, puis qu'il n'allait pas avoir de difficultés, puis pas de problème. Moi, j'ai le feeling que j'ai présentement, c'est que ça risque d'être au bout du compte une course peut-être pas mal plus serrée qu'on croyait au départ.
Oui, les derniers sondages démontrent que oui, certains malaises, que les écarts ont diminué un peu pour une majorité. Ça ne veut pas dire que les libéraux ne vont pas remporter l'élection nécessairement, mais pas en majorité. Je pense à ce moment-ci, c'est ça la chose la plus intéressante, parce que quand tu es en position minoritaire, la seule bonne raison d'aller aux urnes, c'est d'avoir une majorité. Alors, ouais. Reste à voir. Mais c'est le début de la campagne. Tu veux pas nécessairement être trop en avant au début d'une campagne aussi, parce que tu peux descendre. Alors, je pense, oui, ça va être une course plus intéressante peut-être qu'on avait pensé.
Est-ce que ça se passe, il y a plusieurs personnes, est-ce qu'on feint d'être outré qu'il y a une élection en temps de pandémie au niveau des partis de l'opposition, ou si au contraire, je me mets à la place d'Erin O'Toole, les derniers résultats de sondage me donnent envie d'aller me battre, là. Donc, c'est peut-être qu'une feinte simplement. Mais est-ce que selon toi, ça se passe au mauvais moment? Est-ce que ça va jouer contre les libéraux, tout ça?
Je ne sais pas. Ça dépend vraiment de comment la pandémie se dessine. Si la quatrième vague devient vraiment catastrophique, ce qu'on ne souhaite pas, et on indique que oui, les hospitalisations peut-être, mais pas le taux de décès, pas le taux qu'on avait vu avant, espérons. Mais si c'est très grave, que oui, là, à ce moment donné, je pense que les gens pourrait retourner contre M. Trudeau. La façon que ça pourrait retourner contre des partis qui sont pas bien organisés sur le terrain, c'est que les gens vont pas sortir voter. Et là, les libéraux, les conservateurs, je dirais les deux, ont des avantages sur l'NPD, par exemple, parce que leur organisation de base est assez forte pour sortir les gens sur le terrain. Ils ont plus d'argent, les conservateurs en particulier. Alors, ça pourrait faire plus de différence que le fait que la COVID est là, mais le fait que les gens ont peur de voter ou qu'ils ne sortent pas voter, et que pour sortir le monde, il faut une motivation accrue en temps de pandémie.
Parlant de pandémie, comment est perçue la gestion de crise de Justin Trudeau? Ça a été difficile au départ. Il a été critiqué de toutes parts, justement, particulièrement en tout cas ici au Québec. Là, nous, évidemment, on n'a pas les sons de cloche de l'Alberta, de la Colombie-Britannique. En général, au Canada anglais, comment a été perçue la gestion de crise des libéraux de Justin Trudeau?
La gestion de crise a été perçue de façon assez favorable. C'est quelque chose que le premier ministre peut voir, que oui, c'est les gens sont en général satisfaits. Dans certaines provinces, moins que d'autres, l'Alberta moins que d'autres. Mais là encore, on confond un peu, je pense aussi, les gens dans leur tête ne pensent pas qui gère quoi exactement. Mais en Ontario aussi, le fait qu'on voit que les deux provinces, les deux premiers ministres des provinces sont très bas dans leur gestion. Les deux sont des conservateurs. Alors, paradoxalement, ça peut aider aussi à M. Trudeau, parce que quand les gens pensent conservateurs gestion, ils vont penser à leurs chefs provinciaux, pas à M. O'Toole. Ça pourrait nuire aux conservateurs fédéraux. Mais quand ils pensent à la gestion de M. Trudeau, ils pensent des choses comme aéroport, vaccin. Le vaccin, là, c'est un succès finalement. On voit que 76% des Canadiens éligibles sont vaccinés. Aux 80 sont vaccinés, ça veut dire 76% de la population est vaccinée. Ça, c'est quelque chose. Alors ça, on peut pas le nier que c'est fait. Est-ce que c'est M. Trudeau qui l'a fait tout seul? Non, pas du tout. Mais il va prendre le crédit, et là, je pense que ça lui aide beaucoup dans la tête des électeurs.
Tasha, évidemment, ça se jouera pas juste au Québec, là. Il va y avoir des sièges en jeu, même en Alberta, on nous disait tout à l'heure, du côté de l'Ontario, évidemment. Ton regard sur ce qui risque de se passer ici au Québec, as-tu l'impression que le Bloc est capable de s'en tirer encore une fois avec 32 sièges, ou si au contraire, les libéraux risquent d'aller en chercher quelques-uns de ce côté-là? Est-ce que le seul siège du NPD d'Alexandre Boulris est sécurisé selon toi? Comment ça va se passer?
Je dois regarder plus proche exactement les détails du Québec. Ce que je sais, dans le Canada anglais, ayant lu les manchettes que j'ai accès, je trouve que le Bloc, certainement, M. Blanchet fait une très bonne job. M. Blanchet est bien perçu dans tous les sondages qu'on a fait. Et nous, chez Navigator aussi, on va faire des sondages pendant l'élection. On en a fait déjà qu'on peut pas dévoiler avant que l'élection est lancée formellement aujourd'hui, mais qui démontre que M. Blanchet a une cote de popularité plus grande que les autres chefs, qu'il est bien perçu. Et je pense qu'à cause de ça aussi, et le fait que le Québec, c'est le marché où il a pu tâter le terrain pendant tout l'été dans sa tournée, mm-hmm. ça fait plus facilement pour lui de rejoindre les électeurs. Alors, moi, je serais assez surprise si M. Trudeau fait mieux au Québec qu'il fait actuellement et que M. Blanchet et le Bloc perdent davantage.
Ah oui, OK. Oui. C'est ce que vous percevez dans les chiffres. Puis là, je veux pas vous
dans
faire...
les chiffres que j'ai vus et l'attitude en général, je pense que les conservateurs vont avoir de la difficulté. Ils ont perdu certains gros canons, comme Stephen Blaney, qui ne se représente plus. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont, eux, faire grogner des votes au Bloc? Je ne sais pas. Je pense que ça va être plus difficile. Et pour les libéraux, je pense que le fait que Monsieur Trudeau... il y a toujours un certain antagonisme, je dirais, entre Monsieur Blanchet, le parti bloquiste, et le fédéralisme de Monsieur Trudeau, que potentiellement, c'est quelque chose aussi... sur lequel il va jouer. Alors, on va voir ce qui arrive, mais le Québec a bien géré la pandémie comparativement aux autres provinces, sauf les provinces atlantiques, je dirais, mais très bien. Alors, ça encore, je pense que les Québécois sont satisfaits de ce qu'ils voient dans la politique en général. Et là encore, ce sentiment de satisfaction peut se traduire avec une satisfaction statu quo, c'est-à-dire le Bloc qui les représente présentement à Ottawa.
Et puis, tu viens de parler de gestion de pandémie au niveau provincial. Il y a deux des endroits où ça a été, j'ai envie de dire, le plus mal géré, l'Ontario, l'Alberta. C'est dirigé par des gouvernements conservateurs. Je comprends que c'est provincial, mais est-ce que ça peut jouer justement dans la tête des gens, là?
Oui, et je pense que M. Trudeau va le jouer. Il va pas, il va faire allusion à la situation de ces deux premiers ministres-là. Est-ce qu'il va les nommer? Je sais pas, peut-être. Ça va aller là, dire M. Kenney, M. Ford, mm-hmm. et les mettre dans le même seau que M. O'Toole. Et je pense que oui, ça va nuire à M. O'Toole parce que, ce sentiment anti-réglementaire, mais anti-gouvernement. Un sentiment de scepticisme à l'égard du gouvernement, c'est un trait conservateur traditionnel. Malheureusement, dans le cas d'une pandémie, ça se traduit par un refus de masque ou un refus de règlement, un refus de se plier aux demandes du gouvernement sur des questions sanitaires. Et là, on voit les résultats. C'est très grave en Alberta. Les cas montent. En Ontario, maintenant aussi, on est à plus de 500 par jour. Alors, c'est une frustration qui s'installe dans la population et disent, ce sentiment-là, ça nuit à la santé populaire et c'est conservateur. Alors, et là, je pense que M. Trudeau va jouer là-dessus.
Entre un gouvernement minoritaire et un gouvernement majoritaire, parfois, ça se joue sur quelques sièges uniquement. Au moment où on se parle, le Parti vert a quoi, deux sièges, je pense. Sauf que ça va mal, ça va très mal du côté du Parti vert. Est-ce que c'est le genre de comté qui pourrait glisser, selon toi, du côté des libéraux?
Oui, ils ont pas énormément de sièges, clairement, mais ils ont perdu leur député Jenica Atwin. Mm-hmm. Mais je pense que la situation des Verts, si on regarde, ils ont glissé de 6% à 3% dans le dernier sondage que j'ai vu au national. Ce que ça veut dire, et là aussi, c'est l'NPD qui joue là-dedans, c'est le vote progressiste qui se divise entre les libéraux, l'NPD et les Verts. Ce vote progressiste, où va-t-il aller? Si les Verts, on voit que la majorité des Verts perdus, là, sont statistiquement allés aux libéraux, présentement, où on se parle. Mais si ça va à l'NPD, là, ça peut nuire non seulement aux libéraux, mais ça peut aider les conservateurs dans certains comtés de la banlieue de Toronto, par exemple, où les conservateurs peuvent venir « up the middle », comme on dit, c'est-à-dire dans le milieu, si l'NPD et les libéraux divisent le vote progressiste. Alors, la force de l'NPD... ça peut nuire aux libéraux. Les Verts, ça dépend où ils vont migrer. Alors, on va regarder ça de proche parce que c'est une dynamique qui pourrait justement déterminer s'il y a une majorité ou une minorité libérale.
Je conclue avec deux petites choses, Tasha Carradine. Je veux savoir, ici au Québec, je pense qu'on aime bien, on le trouve très sympathique, Jagmeet Singh en général, mais ça va pas plus loin que ça, j'ai envie de dire. Ça se joue entre François Blanchet et Justin Trudeau. C'est quoi la perception du Canada anglais? Est-ce que Jagmeet Singh pourrait pourrait faire une percée puis aller au-delà des 24 sièges du nouveau Parti démocratique? Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a le charisme, mais est-ce que ça peut aller plus loin que ça?
Il a beaucoup de charisme. Je ne sais pas si le décompte de sièges va changer autant, parce que la force de l'NPD, c'est vraiment dans les villes. Il y a aussi une certaine force dans des banlieues, comme à Toronto, il y a des banlieues où ils sont très représentés par des communautés culturelles. Mais la force, c'est dans les centres urbains. Là, ça va jouer pour l'NPD. Est-ce qu'il y a autant de sièges, et aussi dans le nord de l'Ontario, il y en a certains, mais est-ce qu'ils vont être capables de gagner plus de sièges dans ces châteaux forts-là? Je ne sais pas. M. Singh a beaucoup de charisme, sauf qu'on a vu maintenant que Jerry Diaz, par exemple, est sorti pour Unifor en faveur de la politique libérale sur la vaccination obligatoire.
Ouais.
Ça va jouer beaucoup, je pense. Et là, si les syndicats embarquent, qui sont traditionnellement NPD avec les libéraux, ça n'aide pas, M. Singh. Le vote progressiste, oui, il le capture très bien. Le vote traditionnel NPD syndical, moins. Alors, c'est là quelque chose qui pourrait faire un peu de mal à son parti s'il ne rejoint pas ces gens-là.
Tasha Carradine, dans 27 minutes, Justin Trudeau va déclencher les élections. Je vous pose en conclusion, en 30 secondes, la question évidente. Est-ce que, selon vous, le 20 septembre, le Parti libéral sera majoritaire?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, parce que je ne sais pas. C'est la question de l'élection. Je pense pas que les conservateurs... Peut-être qu'il va y avoir une surprise, mais où on se parle, je pense que c'est la question que vous m'avez posée et je n'ai pas la réponse. Désolée. On va la voir.
On l'aura le 20 septembre. Merci beaucoup, Tasha.
OK, ça fait plaisir.
Merci,
bye-bye.
C'est bien gentil. Tasha Carradine, donc, qui nous parlait en direct concernant ces élections qui seront déclenchées dans quelques instants.